Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
À Tombouctou, les médias face aux fake news, autrement dit la désinformation. Dans un contexte d'insécurité, les fausses informations accentuent la peur et l'angoisse à Tombouctou, la cité des 333 saints. La désinformation circule rapidement, notamment sur les réseaux sociaux et par le bouche à oreille. Rumeurs d'attaques, fausses alertes aux informations non vérifiées compliquent le quotidien de ses habitants et fragilisent la cohésion sociale. Face à cette situation, les médias locaux, en particulier les radios et les blogueurs, démontent ces informations et démontent ces rumeurs afin de fournir une information fiable et apaisée. Malgré les efforts des professionnels, des médias et des activistes, la lutte contre les fake news reste un défi permanent. À Tombouctou, informer juste, à Tombouctou, informer juste, c'est aussi contribuer à rassurer la population. Et c'est de ça que nous allons parler avec nos invités au nombre de trois. Je commencerai par ma droite. Il y a Mariam Dit Tene Traoré, blogueuse et activiste, et fact-checkeuse plutôt, à Tombouctou. Et à l'extrême bout, toujours à ma droite, vous avez Mohamed Agalou, également fact-checker à Tombouctou. Et à ma gauche, vous avez le journaliste très connu ici à Tombouctou, Albert Karim Traoré. Je suis Mariam Maïga pour la modération de cette émission. Auditeurs, auditrices et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Cette émission de débat, Le Grand Dialogue, se passe à Tombouctou, en marge de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Déjà, nous allons faire une première question tour de table. Je commencerai par la dame qui est sur le plateau. C'est pas tous les jours que nous avons des dames sur nos plateaux pour venir débattre. Comment se présente aujourd'hui la situation des fake news à Tombouctou, la désinformation, comment elle se présente aujourd'hui à Tombouctou?
Alors, bonsoir à tous, bonsoir Mariam. Alors, pour parler de la désinformation ici, la situation est vraiment très compliquée. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas sitiés et les informations font un flux tellement désagréable que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les vrais du faux. Et tout le monde se permet aujourd'hui d'être informateur, d'être journaliste, d'être sur les réseaux sociaux afin de propager des informations, que ça soit vrai ou pas. Les gens ne se donnent pas la peine de vérifier. Et cela fait que les personnes, par exemple, plus âgées ou les jeunes qui veulent vraiment devenir influenceurs ou influencer sur TikTok, par exemple, ont toujours besoin de plus de vues, plus de likes. Et cela fait que la situation est tellement compliqué, tout le monde a des informations de nulle part et tout le monde pense malheureusement que tout ce qui vient de TikTok ou qui vient de quelqu'un qui est beaucoup plus influent est vrai. Nous sommes vraiment perdus et nous avons la difficulté, cette difficulté-là de faire la différence entre les informations.
Albert Karim, je viens vers vous. Elle vient de le dire, ces informations actuellement, ces fausses informations sont une réalité à Tombouctou et surtout avec ces nouveaux réseaux nouvellement venus ici, notamment TikTok. Comment cela se présente aujourd'hui, votre avis, dans la ville de Tombouctou?
On va peut-être déjà revenir en arrière pour dire que le phénomène de fake news, par exemple, le phénomène de désinformation n'est pas si nouveau que ça. Il existe depuis, mais il est en train finalement de prendre de nouvelles facettes. Il est en train lui aussi d'opérer des mutations face auxquelles peut-être qu'il est, on va dire, indispensable que les acteurs du secteur de l'information, les journalistes notamment, s'adaptent eux aussi. Tenel a dit, il y a peut-être les réseaux sociaux, mais à Tombouctou, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le canal par lequel on désinforme le plus n'est pas finalement les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est la face immergée de l'iceberg. Mais le média traditionnel que la radio est à Tombouctou constitue, ça peut peut-être vous étonner, le canal par lequel la désinformation circule majoritairement.
C'est très étonnant parce que la radio, c'est le média de proximité par excellence. C'est le premier média que nous courons pour écouter, pour vérifier certains faits.
Et c'est justement parce que c'est le média de proximité que c'est le média qui fait courir le plus de mauvaises informations. Aussi étonnant que cela paraisse.
Et comment ces mauvaises informations se présentent sur les radios ici ?
Il y a à la base, on va dire, un joli dérespect, une non-observance des règles de la déontologie journalistique. Je vais juste prendre un exemple. Ces revues de presse que les radios font à longueur de journée ne sont rien d'autre finalement qu'un condensé d'informations ramassées ça et là, et le plus souvent sur des groupes WhatsApp ou alors des plateformes en tout cas, et qui sont en fait des informations qu'on n'a pas pris le temps d'éprouver, que l'on vient balancer comme ça, et que l'auditeur au fin fond par exemple de la campagne va prendre pour de l'argent comptant.
Alors, je vais venir vers vous. Le temps de faire réagir Agalou sur cette information, il vient de le dire, mais notamment dans ce qu'il a annoncé, ces fausses informations également sur les radios, comme il l'a dit, émanent également des groupes WhatsApp. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire que de plus en plus, ici, dans la région de Tombouctou, les fausses informations circulent davantage sur les groupes WhatsApp?
Et je suis entièrement d'accord avec le professeur Albert. Et à Tombouctou, aussi bien qu'au-delà de la ville de Tombouctou, les groupes WhatsApp sont la source de toutes ces fausses informations. Et aujourd'hui, il y a de ces personnes qui ont fait de ça un métier. Vous créez votre groupe WhatsApp qui est payant. Donc, vous collectez des informations par-ci, par-là pour pouvoir animer votre groupe et vous allez bombarder votre communauté d'informations malheureusement non vérifiées. Et ces gens aussi, comme vous l'avez dit dans votre intro, de bouche à oreille, ils transportent, ils véhiculent ces fausses informations. Et malheureusement, la vieille lambda qui est là, qui malheureusement ne maîtrise pas les technologies pour vérifier ces fausses informations, va aussi véhiculer à tour de l'heure ces informations dans sa famille, au marché, chez la vendeuse de pain, ainsi de suite. Malheureusement, c'est devenu un phénomène qu'il faut vraiment essayer de combattre.
Alors, si c'est devenu un phénomène qu'il faut vraiment essayer de combattre, est-ce qu'il est possible en tant que membre de ces groupes WhatsApp également, quand vous voyez ces contenus, quand vous, par exemple, Agalou, vous faites partie d'un groupe WhatsApp, est-ce que vous parvenez à apporter, par exemple, vous voyez une information, à donner votre version sur la chose ou en vous disant « faites attention, il faudra vérifier » et tout ça?
Nous le faisons à longueur de journée. Souvent, nous redirigeons des gens vers l'information qui a été vérifiée par peut-être par Tamani, par Bembele, par Jalon ou bien par Horizon 7, ainsi de suite. C'est-à-dire des organisations, des structures qui sont spécialisées dans les fact-checking. Mais comme vous le savez, ces gens, il n'est pas du tout facile de les convaincre. Il n'est pas du tout facile de les convaincre. Quand ils croient à quelque chose, ils vont me dire, bon, c'est vous qui êtes parti à l'école, vous pensez que nous, on ne réfléchit pas à ça, c'est vrai, je l'ai vu sur telle ou telle page, sur tel ou tel groupe, donc c'est une information vraie. Donc c'est compliqué, mais on fait de notre mieux pour vraiment ramener les gens à la raison.
Mariam, je viendrai vers vous tout à l'heure, je me tourne vers Albert. Albert, il vient de le dire, est-ce que ce n'est pas le fait que sur les groupes WhatsApp, comme vous l'avez dit, les sources des fake news sur les radios proviennent de ces groupes WhatsApp, est-ce que ce n'est pas parce que la plupart des personnes ou les gens qui sont sur ces groupes WhatsApp-là ne comprennent pas un tout petit peu la portée de la désinformation aujourd'hui?
Il y a cela, il y a que une bonne partie de ceux qui sont sur les groupes WhatsApp sont soit analphabètes ou semi-analphabètes et donc ils ne comprennent pas l'enjeu de la désinformation. Ils ne comprennent pas l'utilité de consommer de l'information saine. Mais il n'y a pas que ça, il y a également que certains qui peuvent être présentés même comme des intellectuels vont eux aussi donner du poids à cette désinformation sur les groupes WhatsApp. Maintenant, parlant des groupes WhatsApp, moi, je voudrais certainement vous ramener encore en arrière. Il faut peut-être dire que tout le monde n'est pas forcément sur WhatsApp. C'est vrai que les groupes constituent un relais très puissant, mais il y a à côté que tout le monde n'est pas sur WhatsApp, que tout le monde n'a pas accès à la connexion, que tout le monde n'a pas un smartphone et tout ça. Et donc, moi, si je dois faire, par exemple, le parallèle entre l'effet des groupes WhatsApp et l'effet des radios, je me dis, s'il y a un canal sur lequel il faut véritablement insister, c'est celui de la radio, parce qu'il a un auditoire beaucoup plus grand. Il y a cet effet de temps avec une radio. Tu atteins un plus grand nombre de personnes en un laps de temps, plus que cela peut être le cas, par exemple, avec un groupe WhatsApp. Maintenant, pour revenir à la question, ceux qui sont dans ces groupes WhatsApp savent souvent que toutes les informations qui y sont véhiculées ne sont pas vraies. Mais à tort, donc inconsciemment ou peut-être consciemment, elles vont, elles aussi, ces personnes-là, être les relais de cette info. Vous allez voir une info qui a été publiée, par exemple, sur un groupe X, qui va se retrouver sur un groupe Y dans les secondes qui suivent et qui va se retrouver dans un groupe Z dans les autres secondes qui suivent. Et vous allez trouver que la même personne est à la base du partage de la même info sur ces différents groupes. Donc, si vous avez partagé une info sur un premier groupe et que quelqu'un vous a alerté, attention, cette info, elle n'a pas été éprouvée, elle n'est pas vérifiée, elle n'est pas non plus vérifiable, il faudrait peut-être l'enlever, la même personne va méconnaître justement cette alerte-là. Sciemment, elle va transporter son info parce que il y a peut-être, je ne sais pas, de la fierté à tirer de ça, de dire par exemple qu'on a partagé beaucoup d'infos sur tel ou tel groupe. Je ne comprends pas quelles sont les motivations de ceux qui font ça, mais c'est aussi un phénomène qu'on observe.
Chers auditeurs et téléspectateurs, les bruits de fond que vous entendez font partie du décor de cette émission qui se déroule à Tombouctou, en marge de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Mariam, je viens vers vous. Comment aujourd'hui ces fake news et ces désinformations se présentent? Quand je dis comment ça se présente, généralement, quand on entend, c'est dans quel domaine de la vie, couramment?
En réalité, ces informations, on les trouve dans presque tous les domaines parce que les gens cherchent surtout les côtés sensibles des autres pour une manipulation, si je peux le dire comme ça, que ce soit dans les domaines de la santé, dans les domaines de la commerce, dans le domaine politique surtout. Il y a toujours quelqu'un qui cherche un moyen d'attirer le public à travers une fausse information. Et malheureusement, je pense que les autres aussi sont dans la mésinformation parce que à chaque fois qu'il y a une information, d'autres personnes se permettent aussi de le partager sans vérifier. Et les gens ne savent pas réellement que l'information peut être fausse.
J'allais en venir parce que on parle de désinformation, il y a la mésinformation aussi pour ces personnes-là également qui partagent des infos sans savoir qu'ils sont en train de partager des fake news. Et aujourd'hui à Tombouctou, vous, acteurs locaux, qu'est-ce que vous faites au quotidien, par exemple, pour contribuer à faire comprendre cette désinformation à la population?
Par exemple, personnellement, moi, j'ai un groupe WhatsApp constitué de 30 jusqu'à 38 femmes. Nous essayons d'ensemble un peu lutter contre ces désinformations, ces fake news. Et sur le groupe également, nous demandons à ces femmes-là si elles ont des informations qu'elles en doutent, après aussi qu'elles l'envoient sur le groupe. Nous avons des spécialistes, des personnes qui peuvent vérifier ces informations et puis faire la différence entre les vrais et les faux. Dans le quartier également, nous avons des petites associations hebdomadaires, des tontines et tout ça. Par exemple, la dernière fois, on parlait de la vidéo de Jessica et tout ça. Et j'avais dit que c'était une vidéo générée par il y a. Je voulais aussi en parler parce qu'aujourd'hui, on lutte contre ces images, ces vidéos et tout ça. Mais on ne parle pas vraiment de l'IA. Alors que quand on dit que cette vidéo vient de l'IA et que la personne en question ne sait pas que veut dire IA, ça devient compliqué. Forcément, la personne ne va pas vous croire. Donc, au préalable, il faut aussi parler de l'IA, des avantages, des inconvénients que l'IA a. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire pour vraiment prouver? J'avais pris une photo de la personne même, j'ai mis sur ChatGPT et j'avais demandé à ChatGPT, j'ai écrit un texte, de me transformer cette personne au Sénégal sur la plage et tout ça. Et heureusement, avec les réseaux, on a pu avoir l'image. Et je lui ai montré qu'à travers ça, les gens peuvent créer des vidéos, des images et tout ça. Sur le groupe également, nous avons des thèmes. Chaque mois, nous traitons 2 à 3 sujets de désinformation et tout ça. Et bon, peut-être que tout le monde ne participe pas, mais la majorité des femmes participent et nous essayons surtout de sensibiliser à travers ces groupes.
Agalouge, la même question pour vous. Comment vous faites ici à Tombouctou pour venir à bout de ces fausses informations?
Et comment on fait? D'abord, comme c'est sur cet espace, on le fait à travers les radios, à travers nos différentes plateformes en ligne, nos comptes personnels. On vérifie, on fait du travail de fact-checking, on va à la source voir cette image, elle est sortie de son contexte ou bien elle a été générée par IA. Et on les véhicule dans nos groupes WhatsApp, nos groupes Telegram pour vraiment aider les gens à faire la différence du faux avec les vrais, mais aussi à avoir cet esprit critique, à aller fouiller, c'est-à-dire ne pas croire, ne pas prendre comme argent comptant la première information qu'on a sous la main. Et on leur suggère souvent aussi des outils, des recherches comme Google Inverse qui est vraiment facile à utiliser. On fait aussi des sensibilisations souvent, bon, quand on a l'occasion, dans les écoles, ainsi de suite.
Est-ce que ce travail de vérification de faits, la portée de ce travail de vérification de faits est-il visible aujourd'hui sur le terrain à Tombouctou?
Oui, il est visible à travers nos publications, à travers nos contenus sur notre site. Parlant par exemple, on a le site Horizon 7 sur lequel il y a tous les articles qui ont été, les articles de vérification. Il y a aussi des petites publications sur des petits posts à travers lesquels on demande que cette information n'est pas du tout vraie. Il y a aussi le groupe WhatsApp. C'est peut-être de manière générale, le travail n'est pas assez visible parce que beaucoup de gens ignorent le travail de vérification des faits, mais on fait de notre mieux et on pense qu'au fil du temps, les gens vont les comprendre. Et cela m'amène à dire qu'aujourd'hui, il faut que ce soit dans les écoles, dans les familles, qu'on ait une base d'éducation aux médias et à l'information. Il le faut vraiment. Cela va nous donner un esprit critique à ne pas croire à toutes les informations qu'on a.
Albert Karim, aujourd'hui, est-ce qu'on peut quantifier ou savoir le poids de la désinformation sur la population à Tombouctou?
Ce serait peut-être prétentieux de dire, par exemple, le poids, mais on ne peut pas nier l'effet. C'est vrai que la situation sécuritaire est en train de s'améliorer. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Mais quand on se fie, par exemple, à toutes ces informations qui circulent et donc qui ne sont pas toujours de bonnes informations, on a encore l'impression que la situation est pire qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Parce que des gens vont faire croire voilà, que tel village à quelques encablures de Tombouctou est entièrement envahi par une horde de terroristes, disons comme ça, d'extrémistes peut-être, et que leur prochain arrêt, leur prochaine étape, voilà, c'est là. Et là, vous créez, sans le savoir, une certaine psychose. Ceux qui veulent par exemple se déplacer d'un point A à un point B, mettons par exemple que le petit commerçant qui veut aller à la foire de Tonka, à qui on a dit bon, on vient d'éventrer quelqu'un tout de suite là, à 5 km de ton casse, c'est un exemple que je prends. Et c'est pas anodin, on sait tous ce qui s'y est passé. Ce forain qui veut y aller, il va changer d'avis parce que l'information qui lui a été donnée et qui n'est pas forcément de la bonne information va modifier son réflexe. Il ne va pas dire « et si ce n'était pas vrai ?» Pas du tout. Il va plutôt penser à sa sécurité physique, il va penser à un ensemble de choses qui vont faire que sa décision va changer. Donc, il ne va pas aller à la foire. Et il y a un effet boule de neige. Si, par exemple, il doit aller écouler de la marchandise périssable, ben, il va perdre sa marchandise parce qu'une information a fait qu'il n'a pas pris la décision d'aller à la foire écouler sa marchandise. Et donc, si on veut mesurer le poids de la désinfo, aujourd'hui à Tombouctou, pour ne pas peut-être tomber dans l'à peu près, on va dire, il est énorme.
Alors, il est énorme, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous, acteurs locaux, aujourd'hui, ça a été dit ici, il y a plusieurs initiatives, mais est-ce que les acteurs, que ce soit journalistes, activistes, blogueurs, s'unissent aujourd'hui, par exemple, pour des plateformes en lançant des alertes en disant que si vous entendez des choses, voici des numéros, vous pouvez vérifier des faits. Est-ce que, de façon globale, vous vous initiez aujourd'hui pour étayer, pour éclairer cette population qui, pour la plupart, elle est analphabète?
C'est l'idéal, Mariam, mais il faut sortir de l'idéal. C'est que ceux qui vont véhiculer la mauvaise information sont motivés par à des intentions qui ne sont pas forcément celles d'Agalou, qui ne sont pas celles de Téné, qui ne sont pas celles du journaliste que je suis. Donc ça va être très difficile de demander à ces gens qu'on ait par exemple un cadre dans lequel on va travailler pour justement bouter la désinformation, pas du tout. Il y a ceux qui s'y plaisent, même si forcément ils n'en tirent pas un bénéfice évident, mais il y a quand même ceux qui s'y plaisent. Leur demander de s'associer à nous pour un travail qui vise à mettre fin à ce qu'ils font, moi, je crois que ça peut paraître un peu utopiste. Mais c'est vrai que nous faisons des efforts pour en tout cas sensibiliser en premier lieu ceux qui créent des contenus. Et beaucoup aujourd'hui ont compris qu'il est utile de servir à la population de l'information vérifiée et vérifiable. Moi, je suis de ceux qui croient, comme mon aîné Aboukrine Maïga Adidas, peut-être que vous connaissez, qui pense que la désinformation est pire que la sous-alimentation, par exemple. Il a coutume de dire, par exemple, que la désinformation a plus d'effets ravageurs que la sous-alimentation. C'est peut-être un parallèle que beaucoup ne vont pas faire, mais il faut vraiment oser le faire.
Alors, vous avez dit, pour la vérification des faits, il existe plusieurs outils. Google Inverse a été dit, il y a les outils générés par l'intelligence artificielle. Mais est-ce que aujourd'hui, pour la vérification des faits, vous avez accès aujourd'hui aux acteurs aujourd'hui qui peuvent être des sources premières aujourd'hui pour vérifier des faits? Comment l'accès aux sources, pour vous, acteurs de médias, se fait ici à Tombouctou? Agalou, je commencerai par vous.
Ça, c'est vraiment la chose la plus difficile, l'accès aux sources. Je prends un exemple. Par exemple, si on a un sujet sur la sécurité ou bien sur l'armée malienne, il est très difficile d'avoir accès. Parce que c'est tout un tas de procédures. Il faut écrire une lettre qui peut-être n'aura pas de réponse. Il faut attendre. Et le sujet, il est à chaud. Peut-être que pendant que vous attendez, il y a un autre qui l'a déjà traité. Donc, c'est peine perdue. Donc, c'est vraiment très difficile. À partir du moment où ce n'est pas une source qui est accessible via Internet, c'est vraiment difficile.
Mariam, vous partagez cet avis. Comme aujourd'hui, vous, en tant que blogueuse et fact-checkeuse ici, quand vous voulez vérifier une info auprès des sources, est-ce que c'est difficile, les démarches à mener sont difficiles pour avoir accès aux acteurs locaux?
Ça dépend surtout, je pense, de vers qui on s'adresse. Il y a des personnes vers qui vous pouvez facilement avoir de l'information, d'autres pas, pour des raisons que nous ignorons parfois. Mais parfois aussi, il faut savoir respecter la décision de l'autre et essayer d'user de ses propres moyens pour vraiment essayer de trouver l'information, la vraie information. Ce n'est pas tout le temps facile, mais parfois aussi, il y a tellement de freins qu'on finit par laisser l'information. On pense à sa famille, aux conséquences qu'il peut y avoir, à l'image que ça peut nous donner dans le quartier. Comment est-ce que les gens vont nous voir, vont penser de nous? Il y a tellement de choses que parfois même vous voyez des choses que vous aimeriez dénoncer, vous ne pouvez pas parce que vous pensez aux réalités derrière vous, à la situation, au phénomène de la vie et toutes ces choses. Le fait qu'il y a tellement de personnes qui ne vont pas vous soutenir, qui vont mal penser de vous, ensuite ça va vous bloquer. Par exemple, vous pouvez partir à l'hôpital voir des choses. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous vous dites un jour j'aurai besoin de ces médecins-là, mais ils vont garder quelque chose pour moi sans savoir que c'est un travail que je fais. C'est quelque chose qui peut peut-être permettre d'avoir des avantages et tout ça. Donc c'est vraiment, parfois ce n'est pas forcément trouver quelqu'un qui va vous donner de l'information, mais la situation même qui se présente à vous, vous freine.
Vous partagez cet avis?
Absolument, absolument. Agalou a pris l'exemple de sujets relevant par exemple du secteur de la sécurité. Il n'y a pas longtemps, pour rester dans la dynamique de l'événement pour lequel nous sommes là, la Biennale, quand le Premier ministre venait à Tombouctou pour l'ouverture de la Biennale, des rumeurs ont été répandues qui disaient par exemple que son vol a été la cible de tir. Et il fallait justement, d'abord, pour se permettre de démentir cette info, aller vers qui de droit, et aller vers qui de droit, en l'occurrence, c'était par exemple les autorités militaires, peut-être le commandement de la base aérienne. Mais c'est difficile. Et en plus, il s'agit d'un sujet hautement sensible. Le fait seulement de s'y intéresser fait que vous êtes vu d'une façon ou d'une autre. On ne voit pas, par exemple, le journaliste qui veut faire son travail. On voit quelqu'un qui veut s'incruster dans un domaine qui n'est pas forcément le sien. Mmh. Et on vous regarde le travail. Mais qui est-il? Et là, c'est compliqué.
Et là, pendant ce temps, la rumeur, elle court, elle circule. C'est justement ce que j'allais
dire. Et pendant le temps qu'on cherche, par exemple, à parler à quelqu'un, la rumeur, elle est en train d'aller à une vitesse V qu'on ne peut pas imaginer.
Alors, vous avez le micro, vous le gardez le temps d'une dernière question autour de table. La technique me fait signe qu'il ne reste que 3 petites minutes pour clore cette émission. Aujourd'hui, comme vous venez de dire, le phénomène de la désinformation, elle est réelle, il faut y faire face. Comment lutter efficacement donc contre ce phénomène-là? Quelles seront vos astuces?
Moi, je crois qu'il y a de plus en plus de la défiance à l'égard du fact-checking lui-même. Certains y voient voilà une manœuvre de structure qui finance par exemple les journalistes à tel ou tel dessin. Moi, ce que je crois salutaire, c'est d'inclure aujourd'hui un module d'éducation à la communication et à l'information, essayez, Agalou en parlait, dans les enseignements. Et cela, pas qu'au lycée, mais déjà depuis le fondamental. Ça va développer chez les enfants cet esprit critique, ça va les familiariser par exemple avec certaines choses, et ça va même permettre d'éviter certaines dérives comme celles que nous observons, notamment sur TikTok. Et il n'y a pas que TikTok, j'épargne le reste.
Agalou, votre recette pour venir à bout de la désinformation à Tombouctou?
Et la première, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser les auditeurs, les internautes, à ne pas croire à tout le monde. Les meilleurs journalistes peuvent se tromper. Les meilleurs professeurs peuvent se tromper. Donc, vérifier les informations avant de partager.
Mariam, la dernière réaction de cette émission sera donc pour vous. Comment venir aujourd'hui ou lutter efficacement contre la désinformation à Tombouctou?
Alors, déjà, comme ils l'ont eu à le dire, je pense que c'est surtout la sensibilisation. Mais on a beau essayer de checker toutes les informations, on ne pourra jamais arrêter ces personnes mal intentionnées qui essaieront de nuire. Par exemple, la Biennale, il n'y a pas quelqu'un ici au Mali qui ne soit pas au courant que la Biennale se passe à Tombouctou. C'est la même chose. Il faut une campagne de sensibilisation nationale où tout le monde doit donner sa part des réactions, que ce soit sur les télévisions, sur les réseaux sociaux, que ce soit des affiches publicitaires. Tout le monde doit parler de la désinformation pour qu'au moins les personnes là qui regardent la télé, qui écoutent la radio ou les enfants qui partent à l'école sachent au moins que des fausses informations existent. Si vraiment cette information, tout le monde l'a, je pense que ça peut être facile pour nous autres de checker les autres informations.
Et merci beaucoup, Mariam. C'est sous vos mots que va prendre fin cette émission de débat consacrée à la vérification des faits à Tombouctou. Grand merci à nos invités, Albert Karim Traoré, journaliste, Mariam Dit Tenin Traoré, activiste, blogueuse et fact-checkeuse à Tombouctou, Mohamed Agalou, également fact-checker à Tombouctou. Cette émission a été modérée par Mariam Maïga. À la régie son et vidéo, il y avait Gagné Kanté et Mamadou Ouattara. Maman Babakunta a aidé à la réalisation. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, ce grand dialogue se passe à Tombouctou, en plein air, en marge de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Grand merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.